Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes au musée de l'Odève pour une nouvelle exposition proposée par Yvonne Papin, la conservatrice du musée, et par Otto Letze, qui est le commissaire de l'exposition. Une exposition consacrée à l'expressionnisme, avec un parallèle entre peinture ou art graphique et cinéma. On va voir pourquoi, et une exposition qui s'intitule « Psychose », qui annonce la couleur un petit peu. Alors, bonjour Otto Letze.
Bonjour messieurs, et bonjour chers spectateurs.
Auditeurs plutôt. Auditeur. Alors, donc vous êtes le commissaire de cette exposition, hein, vous animez en Allemagne l'Institut d'échange culturel, c'est cela ?
Oui, c'est exact, c'est une institution qui est spécialisée sur des expositions itinérantes, et on a conçu cette exposition en Allemagne, elle était présentée dans deux musées déjà en Allemagne, mais c'est la première fois qu'on a, avec l'aide de Madame Papin et son équipe, on a trouvé une, après mon avis, jolie adaptation pour les auditeurs français.
Alors, Yvonne Papin, donc, vous accueillez, je veux dire, vous réussissez à nous surprendre avec une exposition qui, cette fois, associe le cinéma et les arts graphiques. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans cette exposition pour vouloir l'accueillir à l'Odève ?
Eh bien, l'angle d'attaque qui est celui de mettre en lien des arts différents, enfin l'art cinématographique et l'art plastique, les arts plastiques, m'a intéressé en premier lieu. Et puis, je trouve toujours intéressant à un public qui n'a pas forcément l'occasion de découvrir cet art-là, notamment l'expressionnisme. En province, donc je trouve intéressant, c'est toujours dans un but aussi de connaissance et de pédagogie et d'accès finalement à des formes d'expression que l'on connaît peut-être moins, et je pensais que c'était une bonne idée de faire cette exposition à l'Odève parce que il n'y a pas ma connaissance de musée dans le sud de la France qui a traité de ce sujet.
Ou qu'il y ait une collection permanente même avec des œuvres de... Alors, école, courant, c'est peut-être compliqué. Comment on pourrait définir l'expressionnisme ? Bon, on va dire ça naît à la fin du 19e, puis ça va se développer surtout début 20e et après la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais en parallèle, bah, y a le futurisme italien, il y a le fauvisme en France, il y a beaucoup, beaucoup d'autres courants, dadaïsme, cubisme, qui vont aussi, le surréalisme qui fait ses débuts aussi, bon voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comment on peut définir ce que c'est que l'expressionnisme, et puis j'ai envie de dire où et quand, parce que... Quand on parle peinture expressionniste, le premier nom qui me vient, ce n'est pas un Allemand, c'est un Norvégien.
Non, seulement dans la perception des Américains. Non, sans blague, le changement du nombril du monde dans les arts, c'était dans les années 50 seulement. Avant, c'était Paris, et comme c'était Paris, c'était aussi l'expressionnisme qui était né à Paris et pas en Allemagne. Surprenant peut-être, mais en 1911, le terme expressionnisme a été utilisé pour la première fois, mais pas en lien avec une exposition d'artistes allemands, mais avec des œuvres d'artistes français. Dans le catalogue de 22e exposition de la 22e exposition de la Berliner Sécession, la sécession berlinoise, en 1911, on peut lire les œuvres d'artistes français ont été qualifiées d'expressionnistes. Ce n'est qu'à partir de 1912 que le terme expressionnisme a également été appliqué aux œuvres allemandes des artistes allemands. Alors, Cette appellation indique que les artistes de Dupont, la Brücke, ce mouvement d'artistes allemands, étaient inspirés des néo-impressionnistes français dès le début. Ceux-ci étaient considérés comme des modèles pour dépasser l'impressionnisme français. Ainsi, des artistes comme Georges Seurat, Camille Pissarro, Alfred Sisley, etc., étaient extrêmement importants pour la théorie de la couleur chez Kirchner, chez Haeckel et les premiers artistes de la Brücke, du Brücke. Mm-hmm. L'échange entre la France et l'Allemagne était alors plus fort que prévu, à travers les marchands d'art, par exemple Paul Guillaume en France et Alfred Flechtheim en Allemagne. Les artistes et les directeurs du musée, mais aussi à travers des conversations personnelles avec les directs, personnel direct, par exemple au fameux café du Dôme ou à Paris ou au café de la Paix et à Berlin dans le café des Westens, café de l'Ouest, nommé aussi café Größenwahn, ce qui est, je manque toujours le mot français pour...
La folie des grandeurs.
Voilà, folie de grandeur qui nous lance au plein milieu du sujet.
Mmh. Alors, vous évoquez les cafés, en regardant l'exposition, en entendant, je me disais, c'est aussi l'époque, en Allemagne, on va être dans l'après-guerre, on va voir ce qu'on appelle la République de Weimar, c'est aussi l'époque où les cabarets occupent une grande place dans l'art. Alors, cinéma, alors c'est un petit peu plus tardif que les films présentés. Bon, on a Der Blaue Engel de Stenberg avec la fameuse Marlene Dietrich et son Fischer Lola. Mais j'ai l'impression qu'il y a une présence de cet art populaire des cabarets avec une dimension un peu de déchéance, comme ça, de cette civilisation qui semble s'effondrer, que dans la musique Bertolt Brecht va reprendre, et que ça joue un rôle important. Alors, est-ce que ça joue un rôle important pour les artistes expressionnistes ?
Bien sûr, les expressionnistes, la message politique de ces deux groupes des artistes, la Brücke et de Blaue Reiter, le cavalier bleu à Munich, de cette époque, était, dans la période de l'après-guerre, c'était un message sociopolitique de la folie de la grande ville, avec ses surexcitances dans les cabarets, dans les bars, dans les théâtres. Ça développait le souhait de se réunir avec la nature. C'est-à-dire la ville quittait la cité pour s'en aller à la nature et trouver un équilibre avec celle-là. Et de l'autre côté, en l'envers, il y avait un mouvement avec les habitants, les paysans, qui leur conditions de vie étaient tellement mauvaises qu'ils se lançaient de pénétrer dans les grandes villes, les grands assemblages urbains pour chercher leur fortune là-bas.
Oui, c'est la naissance des grandes métropoles européennes qui se développent, qui continuent leur développement amorcé au 18e, 19e siècle, mais là qui prend un grand coup d'accélérateur, en quelque sorte. Alors, Yvonne Papin, comment vous caractériseriez-vous l'expressionnisme ? Là, on a dit un petit peu le contexte historique, mais qu'est-ce qui caractérise l'expressionnisme ou les expressionnismes ? Dans la présentation avec la presse, vous nous disiez il faudrait le mettre au pluriel, le terme expressionnisme.
Alors, je pense que c'est le fait de... Il y a un côté d'une intériorisation du monde extérieur, c'est-à-dire d'assimiler ce qui se passe dans l'environnement, de l'intérioriser, de le réexprimer autrement. Bien sûr, mais ça, c'est valable pour toutes les avant-gardes, c'est le goût de la liberté, le goût de la synthèse des arts. Il y a quand même à cette époque une volonté de réunir tous les arts, la poésie, le théâtre, la musique, dans une sorte d'œuvre d'art totale, en fait. Il y a cette idée-là. Il y a bien sûr, mais ça existe aussi dans le cubisme et d'autres mouvements, les influences multiples des arts extra-européens. Je pense que ce qui caractérise l'expressionnisme, c'est pour le premier expressionnisme, une sorte de vision effectivement un peu idéaliste, etc. Et pour le deuxième, on est plus dans une expression revendicatrice, enfin activiste presque. C'est-à-dire que les artistes se positionnent en tant que témoins et passeurs d'une réalité qui les affecte et qu'ils expriment au travers de leurs œuvres. Alors, dans l'objectif certainement de sensibiliser, en tous les cas d'exprimer un certain nombre de malaises.